La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Outre les grèves, les manifestations, puis les occupations de places, la loi travail, dite loi El Khomri, a également suscité des controverses parmi les économistes et notamment entre des chercheurs qui sont par ailleurs parfois d'accord entre eux sur nombre de points. On l'a vu dans les tribunes des journaux. Elle a suscité également des controverses parmi les juristes, même si assez peu sans doute parmi ceux qu'on appelle les travaillistes, c'est-à-dire les spécialistes du droit du travail. En revanche, on a peu entendu à propos de cette loi les sociologues. Et pourtant, le livre de l'un d'entre eux tombe à pic, fruit de très longues années de travail. Il est signé Claude Didry et il s'appelle L'Institution du Travail. Il nous permet sans doute de comprendre pourquoi cette loi travail, cette loi El Khomri, mobilise tant contre elle, parce qu'il s'agit pour Claude Didry d'un véritable changement de paradigme, celui qu'on a connu et qui s'est mis progressivement en place et qu'il étudie dans ce livre. Claude Didry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle IDHES et vous publiez aux éditions La Dispute, l'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire, qui est une contribution de socio-histoire extrêmement intéressante en général, mais intéressante dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'elle nous permet de mieux éclairer au fond ce qui est en train de se passer et qui n'est pas rien probablement historiquement. Cette loi, loin d'être anodine, vous semble marquer un tournant, et d'ailleurs ce tournant peut se repérer assez aisément dans les motifs, comme on dit, de cette loi, dans les justifications mises en avant, qui posent des problèmes par rapport à une réalité historique que vous retracez dans votre travail, Claude Didry.
Oui, tout à fait. Je dirais que cette loi, elle pose des problèmes dans la mesure où elle traduit un décalage profond entre le paradigme qui anime l'esprit des réformes que l'on connaît actuellement et la réalité vécue du travail. On peut penser que cette loi, elle repose sur un diagnostic qui s'est mis en place, en gros, depuis le milieu des années 90 avec le rapport Boissonnat. Et ce qui se joue là, c'est finalement un esprit de réforme dans lequel, à la limite, le travail n'est plus à l'ordre du jour. Et donc, loi travail, c'est peut-être une dénomination erronée. L'enjeu, c'est de...
L'enjeu, c'est l'emploi. C'est-à-dire, au fond, c'est le chômage. Donc,
c'est ça. Et pour faire disparaître le chômage, peut-être qu'il est intéressant de faire disparaître le travail. Je veux dire par là que, si on revient au rapport Boissonnat, l'enjeu, c'était le contrat d'activité. Donc, on passait du contrat de travail au contrat d'activité. Et du côté du MEDEF, qui se crée à la fin des années 90, l'enjeu, ben, c'est l'entreprise. C'est de pousser les gens à devenir entrepreneurs d'eux-mêmes. Donc... D'une certaine manière, ce qui se joue, c'est d'imaginer une société de mobilité radicale dans laquelle les individus, comme l'aurait dit Marx en son temps, sont chasseurs le matin, poètes l'après-midi, critiques après le dîner. C'est une imagination qui me paraît, au regard, par exemple, de l'enquête emploi de l'INSEE, complètement coupée de la réalité que vivent les membres de la population active.
Enquête emploi de l'INSEE, mais qui nous dit des choses sur le travail. Il faut
absolument
bien faire attention
absolument,
à distinguer
absolument
ces
ouais,
deux
ouais,
termes.
Ouais,
et,
ouais.
Et votre livre est aussi un plaidoyer pour l'usage du mot travail qui a tendance à être recouvert en permanence
absolument
par cette question du chômage et donc par l'emploi du mot emploi.
C'est exactement ça, oui, oui. Disons que l'emploi, c'est une vision de l'activité professionnelle des individus qui est focalisée sur l'individu. Et on le voit à travers les différentes lois, le nouveau modèle social que motive la loi El Khomri, c'est un modèle social de sécurité des individus qui passe d'un emploi à un autre et dans lequel il s'agit d'atténuer les effets négatifs de ces transitions. Mais on oublie le travail, c'est-à-dire une activité qui est une activité activité, un engagement d'individus dans une activité collective qui vise à la réalisation de produits. Ça, c'est essentiel c'est précisément ce qui est perdu, à mon avis, avec ce diagnostic des années 90 et ce point d'aboutissement que constitue la loi El Khomri.
Il y a quelques paradoxes, au fond, et ironie de l'histoire, à voir cette réforme d'ampleur être menée par un gouvernement de gauche, si l'on pense à une tradition travailliste, au fond. Ce sur quoi vous insistez, c'est qu'on est désormais entré dans une logique individualiste qui ne prend plus en considération véritablement la dimension collective qu'il y a dans la notion de travail et que vous mettez bien en avant. D'ailleurs, on y reviendra parce que c'est aussi ce sur quoi on pourrait s'appuyer pour imaginer d'autres pistes face à ce que nous connaissons en termes de remise en cause, je dirais, des modes de production et de distribution de l'économie aujourd'hui.
Oui, et on trouve là une forme d'ironie de l'histoire, hein, avec un code du travail qui doit beaucoup aux premiers socialistes, hein, et donc parmi lesquels on peut citer certes Jaurès, mais aussi Arthur Groussier et Alexandre Millerand, des socialistes qui sont parlementaires dans les années 1890, avec Millerand qui deviennent ministres de l'industrie et du commerce, et qui se lancent précisément dans le développement d'une législation du travail autour d'un code du travail. Comme le dit Groussier...
Ça, c'est 1910, c'est une date vraiment importante par rapport au droit du travail, au contrat de travail.
Absolument. On peut dire que 1910, c'est un tournant, mais c'est un tournant qui est longuement préparé. Et dans cette préparation, l'œuvre d'Arthur Groussier est, selon moi, essentielle, dans la mesure où il propose un code du travail, c'est-à-dire une relecture de l'ensemble des lois existantes et des activités productives sous la lumière du travail. À partir de là, va s'engager tout un travail de réflexion. Sous l'égide d'Alexandre Millerand, qui est aux commandes dans son ministère, avec une commission de codification des lois ouvrières et de prévoyance sociale, et puis l'activité d'une société de juristes qui s'appelle la Société d'études législatives. Alors je rajouterai aussi une autre association, qui est l'Association nationale pour la protection légale des travailleurs, qui est la section française de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, qui est créée au moment de l'exposition universelle de Paris en 1900. Hein, et c'est en fait un élément qui a fourni le motif d'illustration de mon livre, parce que cette tour du travail que Auguste Rodin projette, hein, et que l'on trouve au musée de Meudon, hein, sous la forme d'un plâtre, hein, eh bien, ça devait être le symbole de cette exposition universelle qui devait trôner dans Paris à l'égal de la Tour Eiffel.
Et finalement?
Finalement, ce plâtre est resté dans le musée, le projet est resté dans les cartons, nous avons un sociologue allemand, Simmel, qui, grand admirateur de Rodin, évoquait le grand regret de Rodin, parce que cette tour du travail devait agréger l'ensemble des œuvres de Rodin, notamment la Porte de l'Enfer, que l'on trouve au musée parisien.
Alors on n'aura pas eu cette tour de Rodin, mais on aurait eu le contrat de travail.
Oui, et on peut imaginer que la tour de Rodin devienne un motif pour la prochaine exposition universelle de Paris.
Alors, c'est important toute cette histoire sur laquelle vous revenez dans votre livre, Claude Didry, parce que ça permet de casser peut-être aussi certaines idées reçues par rapport au travail. On remonte souvent, on aime bien ça, à la Révolution française, à la fin à la loi Le Chapelier, etc. Enfin, et finalement, on voit bien comment cette philosophie individualiste qui a pu se développer au 19e siècle va céder la place progressivement à une philosophie différente qui va instituer ce contrat de travail et qui va aussi évidemment être défendue par le syndicalisme naissant à l'époque. Est-ce que c'est ce monde-là qui est en train de s'effriter, d'être mis à mal aujourd'hui par ces politiques publiques qui n'en voient plus l'intérêt ou essayent de définitivement l'achever?
Si vous me permettez, je voudrais revenir sur le diagnostic du 19e siècle. Je crois que on ne peut pas radicalement opposer le collectif et l'individuel. Ce qui se joue, ce sont des rapports entre l'individu et le collectif qui se retrouvent à tous les moments. Et ce que j'ai découvert, moi, ce qui m'a étonné, c'est que le Code civil ne traduit pas une individualisation des rapports productifs, il traduit un héritage corporatif autour de ce maître qui devient un chef d'atelier, qui devient un sous-entrepreneur et qui trouve derrière lui sa famille et d'autres ouvriers. Il est entrepreneur en ce qu'il fait, dit le Code civil. Et on va se retrouver dans un monde qui est profondément collectif. C'est quelque chose qui caractérise ce que le Code civil appelle le louage d'ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage que le négociant, le commerçant, celui qui est soumis au Code de commerce, commande à l'ouvrier qui est soumis au Code civil et pour lequel l'ouvrier va s'adjoindre tout un ensemble de personnes autour de lui, ce qui fait que l'acte productif dans ce cas est profondément collectif, contrairement à ce qu'on croit. Et il donne lieu à des grèves, à des négociations de tarifs sur le prix des pièces, etc. Et de la même manière, ce qui se joue avec le Code du travail en 1910, c'est une nouvelle conception des rapports entre l'individu et le collectif. Ce qui va être important, ce n'est plus ce collectif, ce petit groupe que l'on retrouvait dans les mines, par exemple, sous la forme du marchandage.
Très fragmenté, vous dites. Très fragmenté. Et qu'on voit dans Germinal.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le MAE est un sous-entrepreneur qui est payé à la tonne de charbon et qui, à son tour, embauche des gens, Étienne Lantier, sa famille, les voisins, et qui les rémunère à partir de la somme que lui verse la compagnie. Donc, et c'est une situation qui est très fréquente.
Il y a des relations économiques en cascade, en chassé,
voilà.
Qui font une sociabilité aussi, qui
Absolument.
Font une société.
Absolument. Et ce qu'on peut penser, en notant cette présence du louage d'ouvrage dans le Code civil, c'est que cette activité productive, elle relève des ouvriers, mais aussi des paysans, parce que l'industrie est à la campagne, comme le dit Minard, par exemple, et conduit à avoir une représentation de l'activité productive qui se situe dans ce que j'appellerais le peuple, qui est soumis au droit commun des Français. Et il me semble, à partir de là, que ce que l'on va appeler les capitalistes, en reprenant Marx, d'autres, c'est une classe sociale qui se fonde sur un autre code, un code particulier qui est le code de commerce. Donc ce qui est à l'œuvre, ce n'est pas une mécanique d'exclusion, c'est une mécanique de distinction de la bourgeoisie.
Alors pendant ce temps-là, l'économie et les modes de production vont changer. On va avoir besoin d'intégrer peut-être encore davantage ces différentes fonctions, ces différents types de travaux. Et c'est ça qui va conduire au fond à l'évolution aussi du droit du travail.
Alors, je vais peut-être être un peu plus provocateur encore en disant que l'industrie ne précède pas le droit du travail. Ça, une vision courant dans lequel on nous présente le droit du travail comme un héritage de l'industrie en imaginant que nous serions passés dans une société post-industrielle. Je pense que ce sont des utopies néfastes et peut-être pas en accord avec les défis
de notre
temps.
Alors qu'est-ce qui s'est
passé ? Ben, je pense que on a un mouvement social, un mouvement de la société. Bourdieu a évoqué le terme de conversion en le reprenant de Panofsky pour le tournant de l'âge gothique qui a fait tout à la fois la manière de voir les choses dans la scolastique et la construction dans le gothique. Et je crois que là, on a un tournant de cet ordre-là, c'est-à-dire une forme de conversion du regard sur la production et une forme de conversion de la production elle-même et d'émergence véritablement de l'industrie.
Alors, ça se passe quand et comment ça s'opère ?
Bien, ça se passe progressivement, naturellement. Mais le début du XXe siècle, c'est véritablement, moi je pense, le décollage d'une nouvelle industrie dans un pays comme la France. Dans d'autres pays, on peut mentionner l'automobile, on peut mentionner l'aéronautique, la construction électrique. Ce sont des industries qui supposent et qui s'alimentent d'une collectivité de travail dans laquelle on a non seulement des ouvriers et des ouvriers qui se confondent dans leur métier, mais aussi des techniciens, des ingénieurs, et qui visent à produire, à réaliser des biens nouveaux.
C'est le début de ce qu'on va appeler, et on l'entend beaucoup, l'innovation aujourd'hui.
C'est ça, ouais.
Et la proximité entre ces tâches d'innovation et les tâches de production, de réalisation. C'est une proximité physique qu'il faut organiser.
Absolument.
Et c'est ce qui se produit à l'époque et qui va coïncider avec cette nouvelle codification du travail.
Absolument. On a une lecture de la production en série du début du XXe siècle sous la forme du fordisme, du taylorisme, dans laquelle l'ouvrier est pressé par une organisation du travail et l'ingénieur est dédié quasiment exclusivement à cette organisation du travail par des formules incitatives de salaire, des aménagements de poste. Bien, la situation me paraît beaucoup plus complexe. L'ouvrier et l'ingénieur ne sont pas dans un rapport uniquement de soumission l'un à l'autre. Il y a aussi le besoin de réaliser des prototypes qui se multiplient. L'industrie aéronautique, de ce point de vue-là, est tout à fait remarquable par la multiplication des prototypes qui se poursuivent jusque dans l'entre-deux-guerres. Et ces prototypes, c'est une connaissance des lois physiques, chimiques, etc. par l'ingénieur qui se nourrit de la réalisation que l'ouvrier apporte. De Gaulle, par exemple, le 18 juin 40, appelle à Londres les ouvriers spécialistes et les ingénieurs de l'armement. Donc, on a là cette reconfiguration qu'opère le droit du travail et qui conduit à une innovation dans une entreprise intégrée, où les inventeurs rentrent dans l'entreprise et rejoignent un groupe ouvrier qui se reconstitue, qui se remodèle autour de ces innovations qui sont constantes. Dans le Fordisme, on nous vante la Ford T qui est produite régulièrement, mais je veux dire, Ford, même s'il a des difficultés, ne produit plus aujourd'hui des Ford T.
Alors vous disiez tout à l'heure, Claude Hydry, qu'il fallait remettre en cause cette idée reçue qui consiste à penser que, au fond, le droit du travail, tel qu'il s'invente au début du XXe siècle, est le produit des transformations de l'industrie, qu'en fait, les relations sont beaucoup plus complexes et dans les deux sens. Comment, du coup, faut-il voir le détricotage de ce droit du travail auquel on assiste désormais ? Et est-ce qu'on peut l'analyser comme le produit d'une transformation de l'économie qui fait qu'il y a une dissociation, par exemple, peut-être plus grande entre les fonctions d'innovation dont on parlait et celles de production, avec ces phénomènes liés à la globalisation, à la financiarisation de l'économie, qui conduisent à la délocalisation de certaines activités, par exemple. Enfin, tous ces phénomènes qui affectent véritablement l'économie nationale et qui ont des conséquences sur le travail.
Je pense qu'il faut voir la situation actuelle comme une situation pathologique. Et donc, pour moi, il ne s'agit pas d'un tournant. Il s'agit d'un phénomène idéologique qui accompagne une évolution dans les structures du capitalisme, mais non pas les structures productives, mais les structures de financement. On sait que le capitalisme, c'est l'idée de réaliser des profits à partir de la production de marchandises, mais il me semble que ce qui se joue aujourd'hui, c'est d'abandonner la production de marchandises pour réaliser des profits à travers des dimensions spéculatives. De ce point de vue-là, le tournant, par exemple, de la famille Vindel est éloquent. On a une famille qui est attachée à la sidérurgie, avec un grand industriel qui est François de Vindel dans les années 30. On a aujourd'hui le baron de Seyer qui transforme l'héritage de la famille en un fonds d'investissement qui va courir la rentabilité d'une entreprise à l'autre et par là même rendre beaucoup plus difficile les investissements qui rendent l'industrie possible. Et je crois que là, on a une situation qui est alarmante et qui est alarmante aussi en France à travers l'état des grandes entreprises qui ont été pensées dans la modernisation des années 60 comme le moteur de l'économie. Je veux dire, une entreprise comme Alstom qui est démantelée aujourd'hui en étant absorbée par General Electric avec les suppressions d'emplois que l'on apprend précisément aujourd'hui, c'est une situation qui est catastrophique dans un contexte où une industrie qui est portée sur la production d'énergie rencontre la question de la transition énergétique, qui est quand même une urgence humaine absolue. Donc, on a là des choses catastrophiques. On peut évoquer également le cas d'Alcatel, qui est une entreprise qui s'est réduite à des chercheurs merveilleux autour des Bell Labs, mais qui, en ayant cédé à ce mythe de l'entreprise sans usine, se retrouve aujourd'hui incapable d'industrialiser ces innovations formidables que ces ingénieurs et ces chercheurs ont été en mesure de faire.
Revenons à cette loi travail, Claude Didry, qui entend organiser ce qu'on a appelé, alors le mot est utilisé sans que toujours tout le monde soit d'accord sur ce qu'on met derrière, la flexicurité, c'est-à-dire une conception des parcours individuels de travail. Ça vous semble problématique parce que ça vous paraît une mauvaise manière de regarder les choses à travers l'échelle de l'individu plutôt qu'à travers celle du collectif qui est l'usine dont vous parliez ou l'entreprise.
Oui, ça me paraît problématique. Alors, je ne rejetterai pas la dimension individuelle. Je pense que le travail, c'est un engagement individuel dans un collectif. Et donc, quand on analyse le contrat de travail, par exemple, au regard des critères d'identification, alors que ce soit la subordination, je pense que dans l'histoire, c'est plutôt, et je crois que c'est quelque chose qui mériterait d'être pensé aujourd'hui, c'est plutôt la dépendance économique. On a la reconnaissance d'un engagement des individus, là où on avait, avec le louage d'ouvrage, l'engagement d'une famille, d'un collectif. Bon. Mais ces individus sont engagés par un employeur et entrent dans un collectif sur cette base-là. Quand on travaille dans une entreprise, on ne travaille pas en direct sous les ordres de cet employeur. Il a certes un pouvoir de directive, mais on est affecté à un poste. Et ensuite, ce poste, c'est un poste que l'on occupe au contact des collègues. Et le travail, donc, de ce point de vue-là, c'est un investissement individuel dans une collectivité qui permet d'avancer, de réaliser de nouveaux produits, de résoudre des problèmes, etc. C'est un apprentissage constant. Et donc par là même, moi ce que j'ai constaté dans ces enquêtes de l'INSEE, eh bien c'est toute une activité de recherche de la jeunesse qui entre dans le monde du travail et qui conduit à l'obtention d'un CDI autour de 25-30 ans et qui conduit à une ancienneté croissante avec, je pense, une forme de spécialisation, une forme de carrière qui peut se dessiner plus ou moins dans le travail. C'est aussi ça qui est une condition de réussite pour une économie. On peut difficilement imaginer faire des avancées dans des domaines comme celui de l'énergie ou d'une chimie propre, etc., avec des gens qui seront le matin chauffeurs pour Uber et l'après-midi livreurs pour Deliveroo.
Et c'est ça, pour vous, que met en œuvre ce projet de loi, c'est-à-dire cet abandon de ce qui constitue aujourd'hui encore la réalité numéro un du travail, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée, qui est à 75% la réalité du contrat de travail aujourd'hui.
Et de la population active.
De la population active. Et qui, pour ceux qui n'en disposent pas encore, c'est-à-dire les plus jeunes, constitue l'horizon vers lequel ils se destinent, ce à quoi ils aspirent. Et au fond, on comprend peut-être un peu mieux les mobilisations des jeunes, dont on nous explique en permanence que c'est bizarre qu'ils soient dans la rue, puisqu'ils ne sont pas directement concernés, qu'au contraire, cette loi va leur permettre de trouver du travail, Claude Didry.
Oui, on a une vision qui consiste à opposer des outsiders à des insiders, en disant les jeunes sont des outsiders et les insiders qui sont les plus vieux avec des emplois stables et bloquent pour rentrer dans l'emploi. Donc c'est une vision paradoxale parce que des gens comme Francis Kramartz et Pierre Cahuc, hein, qui écrivent ce rapport sur le contrat unique en 2005, le constatent, hein, et disent d'ailleurs ce chômage des jeunes, c'est source de délinquance, c'est dangereux. Enfin bon, peut-être, mais ils oublient que le temps passe pour tout le monde et que les jeunes deviennent vieux.
Les jeunes de 2005 ne sont plus si jeunes que ça en 2016.
Oui, ils ont 10 ans de plus. Et au vu des données, souvent, hein, dans une fréquence extrêmement forte, ils ont un CDI. Donc, ce sont des choses à regarder pour avoir un diagnostic un peu différent. Le problème n'est peut-être pas celui du sacrifice de la stabilité de l'emploi pour tous. Il est peut-être de permettre aux jeunes de trouver leur voie dans la vie et puis d'éviter un autre élément important qui est celui de ces restructurations fréquentes, hein, on le voit pour General Electric, qui conduisent à mettre sur le carreau des gens dont l'espoir de retrouver une situation est quasi nul. Hein, c'est un meurtre social, il faut le dire.
Alors la situation française est peut-être aussi spécifique dans la mesure où, on l'a vu tout à l'heure, la naissance du droit du travail est concomitante avec les débuts du syndicalisme. Mais on est dans une situation en France où ce syndicalisme est assez faible si on le compare à d'autres situations nationales. Et en particulier, on voit assez peu finalement les salariés français engagés dans la gouvernance, comme on dit, de leurs entreprises. On voit que les instances comme les comités d'entreprise n'ont pas un rôle aussi déterminant qu'ils peuvent l'avoir ailleurs. Et je pense évidemment à l'Allemagne qui est toujours le modèle dans ces cas-là. Et pour vous, c'est vraiment une piste extraordinairement importante. C'est ce sur quoi on devrait insister pour redire à quel point quand on travaille dans une entreprise, on est tous associés à un projet, à la production d'objets ou de services, peu importe, mais on y est individuellement et collectivement au fond attaché.
Oui, absolument. Et c'est vrai que le comité d'entreprise est le symbole de cette collectivité de travail. C'est le fruit de cette transformation historique de l'institution du travail. Et on le retrouve en Allemagne sous une forme plus forte à travers la codétermination et des pouvoirs du conseil d'entreprise, du conseil du Betriebsrat, de contrôle sur l'emploi, sur les suppressions d'emplois. Je pense que c'est un facteur très important pour expliquer le maintien d'une industrie forte en Allemagne et d'une industrie forte et innovante que nous n'avons pas en France. Alors je ne parle pas de la Grande-Bretagne où là on a une situation encore plus dramatique. Et cette dimension du comité d'entreprise, c'est une dimension qui s'est affirmée en France avec des pouvoirs économiques qui certes sont plus faibles. Ils sont de l'ordre de la consultation. Là en Allemagne, on est dans l'ordre de la codétermination, mais entraîne une participation des salariés à la vie de l'entreprise, à ses choix collectifs qui s'est inscrite dans la vie des entreprises. Et il faut pour cela remarquer que les élections au comité d'entreprise sont les élections les plus suivies en France dans les élections professionnelles. On a une participation de l'ordre de 60-70% des salariés, ce qui montre un attachement fort à cette institution. Alors la piste, c'est d'essayer d'explorer la manière dont le comité d'entreprise peut être l'acteur d'une découverte de la collectivité de travail. Parce que aujourd'hui, avec des restructurations qui conduisent à des externalisations, à des regroupements, il est difficile de cerner qui travaille véritablement à la réalisation d'un produit. Prenons le cas d'une automobile. Moi, j'ai observé les sous-traitants de Faurecia. Ce sont des gens qui regardent les usines Renault qui fabriquent les modèles dans lesquels on va retrouver leur siège. Et on a là des formes de solidarité dans lesquelles peut-être le comité d'entreprise peut jouer un rôle. Par exemple, en essayant de définir une collectivité de travail en mobilisant des catégories telles que l'unité économique et sociale autour de cette cohérence des activités productives qui pourraient être reconnues face à des démantèlements sous la forme de business units qui, autour de la rentabilité, ont peut-être leur sens, mais autour de la cohérence productive, le perdent complètement.
C'est donc peut-être aussi la faiblesse des syndicats qu'on paye dans la situation actuelle, Claude Didry.
Pas nécessairement. Je crois que les syndicats en France sont des syndicats animateurs, c'est-à-dire que ils se fondent sur un monde du travail où la grève précède le syndicat. Je pense que de ce point de vue-là, les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot.
Merci Claude Didry. Je rappelle le titre de votre livre, L'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire. Il paraît à La Dispute dans la collection Travail et Salariat. Vous trouvez toutes les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture, page où vous pouvez également réécouter l'émission et la podcaster. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Cyril Baer, à la technique aujourd'hui, Déborah Dagobert, à la réalisation, Anna El Fakir. C'est Étienne Klein que l'on retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.